Heureux de me retrouver à nouveau parmi vous. Geneviève et moi apportons les salutations de ceux que vous connaissez sur Aix-en-Provence. Nous avons nos frères et sœurs à l'église évangélique libre, mais aussi dans plusieurs autres églises. Et nous vous invitons à continuer à prier pour Aix-en-Provence, qui a aussi grand besoin des prières des frères et des sœurs. Il y a programme qui s'appelle Bouge ta ville, qui va démarrer à Aix-en-Provence fin avril, et nous espérons que cela annonce une plus grande collaboration entre les chrétiens de la ville et peut-être une plus grande visibilité pour les autorités de la ville. Il y a déjà eu une rencontre avec Madame le maire, et voilà des sujets de prière que nous pouvons partager en tant que membres du peuple de Dieu. Alors, si vous avez votre Bible, ce que j'espère, je vous invite à ouvrir le livre des Juges. Nous sommes arrivés dans l'histoire passionnante et un peu troublante quelquefois de ce juge qui s'appelle Samson. Et dans son histoire, nous avons déjà vu sa naissance extraordinaire, la mission que Dieu lui avait confiée, l'appel particulier sur sa vie, et puis des débuts dans la désobéissance à ses parents, hélas, et un mariage qui semble avoir tourné au vinaigre. Et ce qui devait être la nuit, c'est là que nous avons laissé Samson, ce qui devait être sa nuit de noces, eh bien, s'est transformé en séparation, puisqu'il a claqué la porte à une nouvelle femme qui venait de le trahir. Et nous arrivons au chapitre 15. Est-ce que vous reconnaissez ce passage ? Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est une sécurité. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul qu'il a écrit dans le troisième chapitre de l'épître aux Philippiens. En citant ce principe pédagogique de la répétition, Paul n'invente rien. Tout parent, tout enseignant sait à quel point il est essentiel de répéter et de faire répéter des leçons, des principes de sagesse et de droiture si on veut avoir ne serait-ce qu'un tout petit espoir que le message soit retenu et pratiqué. Bien avant Paul, Dieu lui-même avait souvent montré à la fois sa patience et sa détermination de nous faire comprendre son enseignement. Car il sait que notre vie en dépend. Nous trouvons ainsi dans les textes de l'Ancien Testament, il y a des textes de loi qui sont répétés. Il y a les différentes descriptions des caractéristiques de Dieu qui sont répétées. Il y a des messages prophétiques qui sont répétés. Il y a des proverbes qui sont répétés. Et dans les récits de la Bible, il y a également les événements qui se passent dans la Bible, il y a également des répétitions. Et ces répétitions sont pédagogiques, c'est-à-dire sont là pour nous enseigner. Le récit de Samson est un bon exemple de ce type de répétition. Dans le cas de Samson, on pourrait même parler d'un cycle. Nous aurions, nous, sans doute tendance à appeler ça un cycle infernal. qui ne semble pas, hélas, enseigner grand-chose aux personnes qui y sont impliquées, mais que nous, qui lisons ces histoires, que nous sommes appelés à comprendre. Lisons le passage du jour, les 8 premiers versets de ce chapitre 15. Quelque temps après, une histoire de mois probablement, à l'époque de la moisson des blés, on est à la fin du printemps, fin mai, début juin en Israël, Samson rendit visite à sa femme avec un chevreau. Il disait « Je vais entrer dans la chambre de ma femme. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'étais persuadé, dit-il, que tu n'avais pour elle que de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas mieux qu'elle ? Prends-la donc à sa place. » Je ne sais pas s'il y a des papas ici qui peuvent imaginer la conversation, mais avec deux filles. Samson leur dit « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla. Il attrapait 300 chacals qu'il tourna queue contre queue. Et, ayant pris des torches, il les plaça chacune entre deux queues, au milieu. Il mit le feu aux torches, lâcha les chacals dans les blés des Philistins et incendia aussi bien les meules que le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent « Qui a fait cela ?» On répondit « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez ? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit rudement, à plate couture. Puis, il descendit et se retira dans la grotte du rocher d'Étam. Si vous avez été troublé dans la lecture, parce que j'ai pris une traduction différente des animaux attrapés par Samson, c'est parce qu'en hébreu, le mot pour chacal et le mot pour renard, c'est le même mot. Et comme les chacals, eux, rôdent en meute, c'est sans doute beaucoup plus rapide d'attraper 300 chacals que 300 renards, le renard étant un animal solitaire. Donc je pense que c'est plutôt des chacals que des renards. Il y en avait beaucoup en Israël à l'époque. Tout comme les Israélites de sa génération, Samson avait adopté en grandissant les valeurs du monde dans lequel il vivait. Ses parents avaient certainement essayé, dans les limites de leurs propres capacités, de lui transmettre d'autres enseignements. Ils ont essayé de résister à son désir d'épouser une fille parmi les Philistins. Mais le succès de ses parents ne semble pas avoir été éclatant. Samson suivait donc souvent des principes et pratiques d'un monde païen, sensuel, matériel et pragmatique. Dans ce passage, le passage que nous venons de lire, Dieu montre les conséquences d'une telle imprégnation culturelle, d'abord dans le domaine du mariage. Pour Dieu, le mariage est quelque chose de permanent. La cellule de base de toute société humaine. Voilà pourquoi il l'a institué dès le début. Et oui, le mariage antédate l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24. Ce texte est souligné par Jésus-Christ lui-même comme preuve que c'est Dieu qui unit l'homme et la femme et que personne ne doit les séparer. L'homme et sa femme sont appelés à fonder une famille et même, voire surtout, à refléter la relation qui existe entre Dieu et son peuple. Il est donc clair que l'homme doit, au minimum, cohabiter avec sa femme et lui être entièrement fidèle. Samson, lui, avait adopté le modèle des Philistins, selon lequel la femme n'était pas à sa charge, mais lui devait ses faveurs à chaque fois qu'il en avait envie. Elle restait, en attendant, dans sa famille, moyennant une petite contribution à l'entretien familial. C'est pourquoi Samson apporte un chevreau et pas des fleurs. L'histoire ne nous dit pas quelles auraient été ses responsabilités dans ce type de mariage, dans le cas de l'arrivée d'une progéniture. C'est dans le cadre de cette conception assez commode du mariage qu'il arrive au début de notre chapitre. Il arrive chez son beau-père dans le but de passer quelques moments agréables avec sa femme. Sa colère est apaisée, il a oublié que sa femme l'a trahi lors du repas de mariage, et il revient la voir. Il apporte ce qui est apparemment le prix normal, de quoi alimenter un bon festin. Mais il y a un problème. Son beau-père, ayant mal interprété la colère de Samson, il ne sait pas qu'il se met en colère facilement, mais il oublie aussi facilement, et il a mal interprété son départ précipité, qui a été la conséquence de cette colère, puis, craignant probablement une perte de revenus, peut-être encore plus la honte qu'aurait vécu sa fille aînée, en se retrouvant après tout sans mari visiteur attitré, ce dernier, le beau-père, avait sauté sur l'occasion de la présence du témoin de Samson pour lui proposer la fiancée de Samson. Aubaine que ce dernier s'est bien gardé de refuser. Mais même chez les Philistins, même selon cette conception d'un mariage allégé, deux maris ne devaient pas partager la même femme. D'où l'embarras du beau-père dans cette histoire, ainsi que son offre un peu maladroite. Prends sa petite sœur. Il sait qu'il est dans son tort, car Samson n'avait pas officiellement répudié sa femme. Le mariage light, sous la forme du concubinage en tout cas, est montré plusieurs fois dans ce livre des juges. Vous pouvez penser au cas d'Abimélech, au cas de Jephté. Ensuite, il va y avoir l'histoire terrible du Lévite avec sa concubine à partir du chapitre 19. Sans parler des cas de femmes multiples pour un Gédéon, un Yaïr, un Ibtsan ou un Abdon. Chaque fois que le récit nous en est donné avec quelques détails, les conséquences de cette vision du mariage sont toujours, toujours négatives. séparation, colère, adultère, jalousie, rivalité, meurtre et massacre, sexualité cruelle, débridée, dépravée. En acceptant la vision du mariage qu'avait son monde à lui, Samson s'était engagé sur un chemin de déception, sur un chemin de frustration et finalement de violence et de mort. Si nous, aujourd'hui, acceptons le compromis avec les valeurs du prochain, les fameuses valeurs de notre époque, les valeurs du politiquement correct, si proches d'ailleurs de celles du monde païen des juges, nous, peuple chrétien du XXIe siècle, nous nous engageons sur le même chemin que Samson. Soyons donc convaincus que notre Dieu a en horreur toute notion de mariage à laisser, tout comme il est toute forme d'adultère. Soulignons même, dans un des passages assez peu nombreux dans la Bible, où il est question de sa haine, que le divorce en est l'objet. Je vous invite à lire le début du livre du prophète Malachie. À une époque que nous vivons, où le déclin du mariage jusqu'au sein du peuple de Dieu, le mauvais exemple de Samson avec ses conséquences désastreuses est une leçon que nous devrions prendre très au sérieux. Ensuite, le passage nous conduit dans ce cycle, un cycle destructeur d'attaque et de représailles. Dans le cas d'une blessure infligée, même accidentelle, dans le cas d'un faux témoignage, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, la loi, nous donne le principe de ce que nous avons appelé l'ex talionis, ou la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Exode 21-24, Lévitique 24-20, etc. Et c'est certainement ce principe-là que Samson cite au verset 3, puis au verset 7. Ou encore, dans le passage suivant, quand il justifie ses actions aux hommes de Juda, au verset 10. On m'a fait mal, j'ai donc le droit de faire mal. Lorsque l'homme cite cette loi, cependant, il a tendance à faire deux choses. D'une part, à justifier une réaction qui consiste en réalité à répondre au mal par le mal. Deuxièmement, à ne pas remarquer que sa réaction dépasse très souvent la provocation. Que dans la pratique, et nous le voyons très clairement avec Samson, dans la pratique, cette loi devient souvent tête pour œil, bouche pour dent, corps pour jambe. Mais, hélas, Samson ne se rend pas compte de cela et il accélère la montée en flèche de la violence en faisant aux Philistins bien plus de mal qu'ils ne lui en ont fait. Il oublie donc, comme nous peut-être bien fréquemment, le principe de justice absolue qui est à la base de cette loi, ainsi que l'intention de Dieu qui est clairement de limiter les dégâts, d'éviter précisément une telle montée en flèche. À la différence de Samson, nous avons aujourd'hui, nous, le bénéfice de la nouvelle alliance, dans laquelle, notamment dans le serment sur la montagne, Jésus-Christ explicite ce qui a toujours, toujours été l'intention de Dieu, remplaçant la loi du talion par la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Le Seigneur va même jusqu'à donner une toute nouvelle orientation à cette fameuse loi du talion. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Dans ce que l'on appelle parfois son évangile, l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul prend lui aussi le temps de souligner l'intention de Dieu à ce propos. Sachant à quel point l'homme a de la difficulté à ne pas répliquer au mal qui lui est fait. Ne rendez à personne le mal pour le mal, dit Paul. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Pour que le cycle terrible des attaques suivies de représailles s'arrête, il faut que l'une des deux parties concernées accepte à un moment d'encaisser un mal sans répondre. Qu'il accepte de pardonner, en somme. La croix sera évidemment l'exemple suprême de cette réaction-là. Jésus-Christ accepte non seulement un mal, mais tous les maux de l'humanité. Car tout péché est un mal injustifié qui est fait d'abord contre Dieu. Et Jésus n'exerce pas de représailles. À la place de représailles, il tend une branche d'olivier, ou plus qu'une branche d'olivier, une offre de salut. Samson, lui, est encore très loin de comprendre que son système de justice ne pourra jamais lui donner la liberté. Mais l'enfermera pour toujours dans la grotte du rocher d'Étham, où nous le laissons à la fin de ce passage. Dans la crainte, pourquoi ? La crainte d'une nouvelle réaction de la part des Philistins, bien entendu. Si nous écoutons les actualités aujourd'hui dans cette optique, nous ne trouvons pas étrange l'histoire de Samson. Nous voyons exactement la même chose. Ce sont souvent les luttes du Moyen-Orient qui défraient la chronique ici en France. Pour nous, à côté de Marseille, c'est souvent la guerre des gangs, des règlements de comptes. Vous avez remarqué que au Moyen-Orient, dès qu'un groupe lance un roquet, eh bien, il y a représailles. Et ainsi de suite. Et très franchement, humainement, peut-on espérer la paix au Moyen-Orient aujourd'hui ? Humainement, je crois que c'est impossible. Que l'intervention de Dieu qui peut enseigner que le système, ce cycle infernal, ne mène à rien. Nous autres à Aix, là, tout près de Marseille, avec des incidents pratiquement tous les mois, si ce n'est toutes les semaines, de règlement de compte, on voit que c'est la même chose parmi les malfaiteurs. Jusqu'à présent, donc, dans l'étude de ce passage, nous avons plutôt vu ce juge Samson comme une illustration négative. Et c'est vrai qu'il est une illustration négative. Il nous montre les conséquences négatives d'une vision non biblique du mariage, ainsi que le résultat désastreux d'une mauvaise réaction centrée, dans le fond, sur sa propre personne, son propre orgueil. Donc, mauvaise réaction à un tort que lui a subi. Dieu veut, lorsque nous lisons ce passage, Dieu veut que nous apercevions dans la vie même de son juge le fruit effroyable de l'imprégnation culturelle, arme de prédilection de Satan. Si nous tenons le langage, tout le monde le fait, alors je peux le faire, nous sommes, nous dit notre Dieu, à travers ce passage, sur un terrain très, très glissant. Et il est impossible de prédire où notre glissade pourra s'arrêter, ou même si elle s'arrêtera un jour. Ceci étant, le mauvais comportement du juge n'empêche pas Dieu, parce que le passage révèle Dieu aussi, n'empêche pas Dieu de se servir de lui comme instrument d'une toute autre leçon. J'espère que vous l'avez vu. Car si ni la cruauté de sens envers des centaines de chacals, ni sa violence sauvage dans le massacre arbitraire de sans doute plusieurs dizaines de Philistins ne peuvent être recommandés, ni même tolérés, ces actes constituent quand même des défaites aussi pour les Philistins, les ennemis du peuple de Dieu. Alors, considérons un instant la répétition des victoires illusoires de l'homme qui se confie en ses propres forces. C'est le cas des Philistins. Est-ce que vous vous souvenez du psaume numéro 2? Certainement, c'est un des psaumes que nous connaissons bien. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Dans ce psaume, Dieu s'adresse aux ennemis de son oint, de son Messie. Leur proclame la folie de leur rébellion. Or, les Philistins constituent l'ennemi d'Israël, doivent donc illustrer à quel point c'est une folie de s'attaquer au peuple de Dieu. Ici, les Philistins sont tout à fait comme Samson dans leur réaction. Il nous a fait cela, disent-ils. Eh bien, il va voir de quel bois on se chauffe. On va lui faire sa fête. Et leur solution, la solution de ceux qui s'attaquent au peuple de Dieu, se transforme vite en désastre. Vous relisez chez vous la suite des incidents, les solutions. Qu'il s'agisse du pari qu'ils ont gagné au mariage, ça leur a coûté 30 vies, du nouveau mari trouvé in extremis pour la femme délaissée, ça leur a coûté leur récolte de l'année, ou encore de la vengeance brûlante sur la belle famille de Samson. Là aussi, on ne sait pas combien de Philistins ont été tués. En passant, en pensant à la femme de Samson, on pourrait dire qu'il y a quand même un petit encouragement au couple marié, que on a tout intérêt à dire toute la vérité à son époux tout de suite. Si la femme de Samson lui avait dit, dès l'approche des Philistins, la menaçant de la tuer, sans doute qu'il aurait fait quelque chose pour empêcher. Enfin bon, ça c'est une autre question. Les Philistins cherchent à chaque fois donc et croient trouver de bonnes solutions humaines. Et ces solutions, qu'est-ce qu'elles donnent? Elles donnent des catastrophes encore plus terribles. Les ennemis de Dieu sont ainsi ridiculisés. Et cela va continuer dans la suite des récits de Samson. Et l'on peut même imaginer qu'un public israélite, essayez de vous mettre un petit peu à la place des Israélites qui lisent, qui entendent, parce que ce n'est pas encore écrit, donc qui entendent le récit des événements des juges. Un public israélite, lorsqu'il voit la suite des désastres qui tombent sur les Philistins, va sans doute rire, tout tragique que soient les événements, parce qu'ils sont ridicules. Dans leur façon de réagir, ils n'ont rien compris. Le champion de Dieu, il ne sera pas battu. Les Philistins sont, en réalité, dans cette histoire, les dindons de la farce. Ils représentent donc à la fois une illustration supplémentaire du même principe que Samson, donc de la vanité des représailles, et surtout la nouvelle leçon qui nous apporte un exemple frappant de la vanité des attaques de l'ennemi de Dieu contre le peuple élu. Pour comprendre à quel point il est important que le peuple de Dieu lui-même comprenne que son Dieu veille sur lui, nous pourrions voir ce même enseignement dans beaucoup d'autres passages de l'Ancien Testament. Pensez à sans doute ce qui représente le récit le plus célèbre de l'Ancien Testament, David contre Goliath. Goliath se moque de Dieu. Le peuple de Dieu tremble devant lui, un homme qui mesure 3 mètres de haut, et David, tout garçon qu'il est avec une fronde, arrive en disant, « Mais tu oses parler contre le peuple de Dieu ?» et contre le Dieu qui veille sur son peuple. Et un caillou suffit pour le géant. Ou alors, 2 Rois, chapitre 6, et les versets 8 à 13. Élisée ridiculise les Syriens qui cherchent à le trouver, à l'abattre, qui cherchent en fait à tomber sur le roi d'Israël, en révélant leur plan parce que Dieu lui dit. Dieu se moque d'eux. Ou alors encore en 2 Rois 18, les versets 17 à 19 et encore le verset 37. Après avoir proféré des menaces par la bouche du Rabshaké et envoyé une lettre insultant le Dieu d'Israël, qu'est-ce qui arrive à Sennachérib? Sennachérib, roi d'Assyrie, voit son armée massacrée pendant la nuit par l'ange que Dieu envoie. 185 000 soldats liquidés. Et lui, il doit donc retourner dans un pays où ce sont ses propres fils qui finissent par l'assassiner. Ou alors, dans le Nouveau Testament, Dieu nous rassure, il veille toujours sur son peuple. Le roi Hérode Agrippa Ier, il s'en prend à l'Église. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait exécuter l'apôtre Jacques, s'appeler au peuple. Ah, ben tiens, Pierre, numéro 2. Il enferme Pierre en prison. Dieu envoie son ange. Ce n'est pas encore le moment pour Pierre de donner sa vie. Il le relâche. Et qu'est-ce qui arrive à la fin du chapitre? C'est Hérode qui meurt par frappé intempestivement par une maladie que Dieu a envoyée. De telles victoires illusoires à répétition sont une leçon. Dieu rit de son ennemi. Non pas que le mal que fait cet ennemi amuse Dieu, tout au contraire, mais ses attaques sont ridicules. Risible, ne pouvant jamais l'emporter sur le Dieu souverain de tout l'univers. Et lorsque nous lisons ce passage, le peuple de Dieu aujourd'hui, Dieu nous encourage à nous en souvenir. Il est toujours le Dieu souverain. Avant de conclure, Revenons quand même à cet avertissement solennel, celui sans doute qui nous touche de plus près, contre le danger de nous laisser imprégner par notre culture ambiante. Dans la première épître de Jean, cet avertissement très solennel est réitéré. N'aimez point le monde, dit Jean, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Or, Samson, lui, a hélas adopté les méthodes de son environnement culturel. Essayez de voir la liste pour que ce soit concret aussi dans notre esprit. Il ne respecte ni parents, ni Dieu et sa loi réellement. Il est très sensuel. Il ne respecte pas le vrai mariage. Il est cruel. Il est violent. Il est irréfléchi. Il cherche à se venger tout seul, alors que la loi indique clairement que la vengeance est l'affaire de Dieu. Deutéronome 32, verset 35. Il est ultra-égoïste, centré sur lui et non sur Dieu et sur le service du prochain. Il est fait pour la société de la publicité. Ultra-égoïste, centré sur lui et non sur le service du prochain. La tragédie, c'est donc que Dieu, pour montrer à quel point la vie de son peuple doit être différente de celle des incirconcis, décide, dans le cas de Samson, de se servir d'un homme dont la vie ressemble à s'y méprendre à celle des Philistins. Alors, cette tragédie de Samson lance un défi à tout chrétien du XXIe siècle. Un, il ne doit pas aimer, ni suivre et imiter le monde qui l'entoure. Deux, il doit reconnaître l'importance des parents, du mariage selon le plan de Dieu, de l'éducation dans la parole et dans les voies que doit suivre le peuple de Dieu. Trois, il doit surmonter le mal par le bien, par la justice, par le pardon. Quatre, il doit comprendre que Dieu maîtrise toutes les situations et que le mal ne peut gagner. Est-ce que nous n'aurions pas là justement le principal point fort de Samson? Un endroit, peut-être le seul où Samson ne défaille pas, il croit qu'il peut toujours gagner et qu'il faut se battre. Et cinquièmement, il ne doit jamais oublier que Samson, juge, nous pousse à tourner notre regard vers Jésus-Christ, ultime juge. Seul juge parfait, seul vainqueur définitif du mal, par le pardon et par la justice. Je vous invite à prier. Seigneur, dans ta parole, il y a des événements souvent affligeants, parfois violents et cruels. Et il y a dans le cœur des acteurs sans doute beaucoup de tristesse, de déception, d'illusion. Mais tu nous as laissé cette parole comme leçon. Ici, une leçon répétée plusieurs fois. pour qu'on n'oublie pas, pour que notre vie soit différente, éclairée par ton esprit et conduite particulièrement par ta vie, Seigneur Jésus, ta vie parfaite. Oui, Seigneur, conduis-nous, conduis ton peuple aujourd'hui à avoir le courage de suivre tes pas et donne-lui ta force. Donne-nous ta force pour accomplir cela. Nous te le demandons afin que ton nom soit glorifié et que tu sois toujours notre juge, notre maître, notre sauveur. Amen.